France Culture.
Alors, moi je vais éteindre ça. Comme ça, il ne sonnera pas.
Comme ça, et toutes mes notifications, je ne rate rien.
Et c'est très radiophonique.
Moi, de toute façon, je ne vais rien dire, ça va être très visuel.
On ne va faire que de la radio sur ce ton.
Il n'y a aucun problème, moi j'adore ce ton.
Pas de pros.
On va tout lire ces pages ou alors on lit trois lignes.
France Culture.
Crochet rouge, quoi.
Je savais pas. Et les gens, ils sont dans leur voiture comme ça et ils vont écouter un mec qui lit. Et ils aiment bien un mec qui lit.
Le book club.
Ouais, ça vous surprend pas,
ça ? Si, non, mais c'est pas le moment chiant pour le mec qui conduit. J'ai jamais. Je n'écoute la radio qu'en conduisant.
Qu'est-ce qui vous paraît bizarre alors ?
De quoi ? Elle n'a pas commencé l'émission là.
Non.
Elle aurait pu.
Mais d'une certaine manière, elle l'est quand même un peu.
Moi, je trouve que les. Off. C'est le plus intéressant.
Mais figurez-vous qu'on les réinjecte dans le générique de cette émission.
Dans la bibliothèque de Ramzi Bedia.
Là, ce que je dis sera dans le générique.
Peut-être.
Ça veut dire que ce que je dis n'est pas intéressant, c'est juste dans le générique, c'est pas dans le corps de l'émission.
C'est encore mieux.
Je suis très impressionné.
Ouais.
Je suis pas dans n'importe quelle maison ici.
Mais.
On va passer une heure ensemble.
Ouais. Marie Richeux.
Et comment ça me fait plaisir. À la fin des années 90, à la télévision française, vous réussissiez, Ramzi Bedia, le pari de faire rire, voire pleurer de rire, debout devant un tableau blanc, en cherchant obstinément la définition d'un mot écrit en capital marqueur noir avec votre camarade Éric Judor. Et avec le recul, ça n'était pas si anodin comme une grande partie de l'humour produit dans ces années-là, de voir un jeune homme français, racisé, dirait-on maintenant, né de parents algériens, se jouer d'une langue qui avait, pour le dire avec des mots faibles, malmené ses ancêtres. Presque 30 ans plus tard, dans l'adaptation que le réalisateur Lucas Bellevaux fait de son roman Les Tourmentés, votre personnage, ancien voyou, dit qu'il a changé, qu'il lit des livres et qu'il aime ça. Et puis dans un film de Baya Kasmi, vous interprétiez en 2023 un romancier à succès, pas complètement à l'aise avec l'idée d'avoir raconté sa vie. Vous racontez souvent avoir découvert la lecture, ce plaisir-là, pendant votre service militaire en Allemagne, réformé, ayant simulé la folie et hop, 3 mois passés à dévorer Kafka, Céline, Irving, autour. Mais Mela Bedia a raconté aussi que vous glissiez des ouvrages sous ses oreillers pendant les nuits d'enfance. Il paraît qu'aujourd'hui, vous montrez à votre dernier petit garçon un livre ouvert à la main pour qu'il en fasse lui aussi un objet du quotidien. Ça fait beaucoup de livres dans votre histoire finalement. Merci beaucoup.
Bonjour.
Merci
bonsoir.
Beaucoup.
Bonjour.
Ça dépend.
Bonjour.
Les gens écoutent le jour, la nuit, comme ils veulent.
Bon, je reste sur bonjour.
Merci d'avoir accepté, Ramzi Bedia, de déballer votre bibliothèque pour le Book Club de France Culture, ça fait plaisir.
Et merci de m'inviter, merci beaucoup.
Alors, de tout cela, de toutes ces histoires sur votre rapport à la lecture, laquelle est la plus vraie ? Est-ce que ce sont les livres sous l'oreiller de Mela Bedia ? Est-ce que c'est d'avoir découvert le plaisir pendant le service militaire ? Est-ce que c'est de tenir un livre ouvert dans votre vie quotidienne aujourd'hui pour que votre dernier enfant y voit un objet de la vie quotidienne ?
Tout est vrai. Et il n'y a pas un truc plus important qu'un autre. Je place pas la littérature comme au-dessus de tout. En revanche, elle est indispensable. Donc, il y a des livres à la maison ouverts, effectivement. Ma petite sœur, qu'elle aille à l'école ou pas, qu'elle soit bonne ou pas à l'école, qu'elle aime le livre, je me sentais forcé de lui glisser certains livres. Je me souviens plus desquels. Ah si, je me souviens de lui avoir forcé à lire Maus.
Elle s'en souvient.
Celui-là, j'en souviens. Et puis plein d'autres après, des livres importants, des livres qui comptent. Et effectivement, c'est ce qui m'a sauvé de la psychiatrie, pas de l'armée, parce que j'ai été réformé, mais au lieu d'être envoyé chez moi, on m'a envoyé en psychiatrie. Et là, au lieu de traîner avec les fous, je suis tombé sur une bibliothèque. Et ne sachant pas combien de temps j'allais rester en psychiatrie, et je voulais pas me mêler aux autres, je savais que j'allais devenir encore plus fou, j'ai pris pour la première fois de ma vie un livre, et j'ai pris le plus gros possible. Parce que je me suis dit, je vais être là pour longtemps. Et c'est là que je suis tombé sur La Conjuration des imbéciles, je me souviens. Et je l'ai mangé très vite. Et ensuite, il y avait Le Monde selon Garp à côté. Que des gens que je ne connais pas. J'avais les dessins rigolos sur la couverture. Je les ai pris. Et je les ai bouffés. Et puis, ma culture musicale dépend, littéraire dépend de cette bibliothèque. Elle n'était pas immense. Pas grand monde qui y allait. Et je sais que tout est parti de cette bibliothèque-là.
Et avant ça, donc là, vous avez quoi, une petite vingtaine d'années ?
Complètement.
Avant ça, vous aviez quoi comme rapport avec la lecture et avec les livres ?
J'aimais pas ça. C'était un truc... c'est-à-dire, Le rapport avec les livres, c'était à l'école. Et l'école, j'avais l'impression d'avoir 13 ans et qu'on nous mettait le rouge et le noir dans les mains. Ça ne m'intéressait pas du tout. Je comprenais pas. J'étais pas contemplatif ou il y a des pages et pendant 3 chapitres où il décrit une rose. Je rentrais pas dedans. Ouais. Ça m'ennuyait. Et les profs nous disaient, mais regardez à quel point c'est contemporain lorsque Madame Bovary, je ne faisais pas le parallèle. Tout ce qu'on proposait à l'école, m'a repoussé de la lecture, donc c'est quelque chose, j'étais vraiment un idiot en sortant de l'école, je disais non, les livres c'est pas pour moi, c'est chiant, je préfère regarder un film, jusqu'à que je tombe sur le livre qu'il faut. Et je crois, j'ai l'impression que il faut tout être humain, tous on doit rencontrer notre livre, et une fois qu'on l'a rencontré on s'arrête plus.
Et après vous êtes plus arrêté?
Non, plus arrêté, parce que pour moi la lecture c'était un truc, les livres c'était un truc pour les intellos, pour les riches, les intellos et les gens éduqués. Et effectivement, quand j'essayais de m'y mettre, je c'était pas pour moi. Quand j'entendais les gens en parler, c'était pas pour moi. Et j'ai découvert une littérature qui parlait comme moi.
À travers quel livre, par exemple?
Bukowski, ça. Là, Bukowski, je suis tombé dessus par hasard aussi.
Dans la même bibliothèque?
Dans la même bibliothèque. Ouais. Et là, ça m'a mis une claque, ça, parce que je me suis dit, comment un type qui parle comme moi, qui raconte des saletés, et bien pourtant, à la fin de chaque nouvelle, j'avais besoin d'une pause et je me dis mais j'apprenais des choses sur moi-même, sur la vie. En fait, c'est la vision de la vie de ces gens, que ce soit Suran ou que ce soit Bukowski. Leur vision m'a sauvé. Je me suis dit, ah, on peut voir le monde de cette manière comme moi aussi. Ça m'a sauvé.
Je pensais. Mais sauvé de quoi du coup?
Bah, je sais pas. J'avais l'impression que j'allais partir en opposition à la société, un peu fuck the system.
Et avec un accent
bien français. Fuck the system, abat les riches. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai rencontré John Kennedy Toole qui a changé ma vie. J'ai rencontré Charles Bukowski et ma vie a changé parce que eux étaient comme moi et je crois que par rapport à, en écrivant, quand ils écrivent, ces gens, ils se sont sauvés eux-mêmes. J'ai l'impression. Parce que moi, c'est ce que ça m'a fait en lisant.
On va y venir parce que vous citez ces livres on a autour de nous, là, sur la table, des livres que vous avez suggérés comme étant des temps...
Il y en a beaucoup d'autres, hein. Là, vous m'avez demandé cinq.
Oui, cinq. Ouais, c'est le jeu à chaque fois.
J'étais au Super U en train d'acheter des trucs et je répondais...
C'est comme ça.
...en prenant des cornichons. Ouais. Mais je me suis concentré quand même.
Bah, j'espère bien quand même.
Et ce que je vous ai envoyé, là, je les vois, je suis très ému. C'est vraiment mes livres...
De chevet, quoi.
Ah, vraiment.
Je citais des débuts télévisés qui ont été des débuts marquants pour la télévision française, pour l'humour français, qui était ce duo autour de la définition des mots. Et est-ce que ça disait quelque chose de votre rapport aux mots? C'est-à-dire, oui. Ne pas lire, ça ne veut pas dire ne pas s'intéresser au langage, ça ne veut pas dire ne pas s'intéresser à la langue.
Complètement. J'ai grandi dans un quartier très, très, très heureux toute mon enfance, et où l'art de la vanne était développé... Au maximum, on passait nos journées du matin au soir à se vanner, à chercher des mots, et on a manié les mots très 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 tôt, mais on se rendait pas compte qu'on faisait ça. On a inventé des mots, on a suivi le verlan qui est arrivé, on les a mélangés, on les a retournés, on a inventé des trucs comme wesh.
Nous qui avons inventé wesh.
La langue française évolue et j'ai été témoin de ça. Le rap est arrivé. Quand le rap est arrivé, c'est pas anecdotique du tout.
Ben non.
Le rap, c'est quelque chose qui m'a... J'ai de la poésie avec des mots urbains. Il y a des auteurs, des compositeurs qui sont bouleversants.
Est-ce que ça a été la même chose de reconnaître quelque chose de votre expérience de la vie dans des textes comme ceux de Suran ou La conjuration des imbéciles que vous citiez tout à l'heure et vivre quelque chose de la poésie de la langue française dans le rap Ramzi Bedia?
Je vais vous dire un truc, j'ai envie de le dire. Pour moi, Charles Bukowski m'a apporté autant que Booba. Quand Booba est arrivé, quand Lunatic est arrivé, la poésie.
C'est la formation qu'il avait
Qu'il avait avant. Ce que Booba a fait, ça m'a en tout cas donné énormément confiance. On n'était pas dans un cadre scolaire avec un monsieur avec des lunettes et un livre à nous prendre la tête sur Bovary. Les mots qu'il a inventés, son phrasé, sa façon, ça. Je cite Booba et
il y aurait qui d'autre, par exemple, dans la scène de française à ce moment-là?
Il y a eu Oxmo Puccino. Alors là, je vais en oublier, donc c'est horrible. Il y en a tellement, quasiment toute notre
personne
génération.
Personne vous en voudra.
Toute notre génération, en fait, était de cela, j'ai l'impression. Il y avait moins de, c'était une époque où le rap exprimait des choses. Aujourd'hui, le rap parle beaucoup de filles et d'amour. C'est un peu dans une sorte de pop urbaine. Il y a encore des choses fabuleuses, et puis l'époque avance. Mais à notre époque, il y avait un truc social et un truc de psychologie aussi, parce que quand on fait partie d'une génération, d'un groupe social un petit peu mis à l'écart, on va pas voir les psys, nous. Alors donc, le rap a rempli ce rôle-là.
D'exutoire.
Exactement. J'ai réécouté Abdel Malik il y a pas longtemps. J'ai réécouté La Secrète Connexion. J'ai réécouté IAM. J'ai écouté NTM. Et des kilos et des kilos encore. Cette génération-là de rappeurs, Fab, Rossé, la façon dont ils maîtrisent les mots et la poésie, Ça me bouleversait. Donc j'ai un rapport avec les mots et la langue française qui est très urbain et qui rejoint la littérature avec... je vois pas de différence entre Bukowski et Booba. Je suis toujours impressionné quand je vois des gens bien s'exprimer. J'adore ça. Bien s'exprimer et que je comprends tout. Ils n'utilisent pas des mots trop... Enfin, j'adore ça, les gens qui parlent. Et pourtant, ça me saoule les concours d'élocution. Je ne suis pas sensible à ça. Ils ont du talent et ils m'impressionnent quand je les vois. Cela dit, c'est pas cette langue qu'il me plaît. C'est pas cette éloquence. C'est trop éloquent. Mm. J'aime les fêlures, j'aime les blessures, j'aime les erreurs.
Et c'est pour ça que, au tableau blanc, avec votre camarade de l'époque, Éric Judor, trouver des définitions et rire de cette langue française-là.
Oui.
C'était aussi parler de votre rapport à cette langue-là.
Ça nous faisait beaucoup rire de tordre des mots un peu compliqués, sachant que nous, on faisait que de l'humour burlesque et très très vite, on nous a dit qu'on était un peu gogol dans notre humour. Et
sympa.
Ça nous apportait un truc un peu jouissif de tronquer les mots, alors que les gens disent, mais ils sont vraiment cons, quoi, eux. Ils sont vraiment incultes. Et c'est quelque chose qui nous plaisait. Et de passer pour des idiotes ou... Ça nous plaisait, ça. J'aime bien...
Pourquoi ?
Je sais pas, c'est la réponse à la bêtise. On s'est toujours efforcé avec Éric de bien parler. En revanche, on jouait les gogoles, mais on parlait pas comme les gogoles. On s'est toujours efforcé de... On s'est forcé de ne jamais faire les caïras, par exemple. Jamais on a fait... on a voulu parler... On voulait pas donner le bâton pour se faire battre. Et on voulait que les gens rient d'abord et se disent hey, « Eh, mais c'est un arabe et un noir !» Pas « ça, bah oui, c'est un arabe et un noir !» Ils parlent comme des arabes et des noirs dans leur tête, de leur cliché, de leur tête. Et on voulait pas leur donner ça. Aujourd'hui, avec le regard d'aujourd'hui sur ces événements, ça paraît politique. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. C'était juste de la fierté et de la dignité. Et puis, on voulait être original aussi. Il y avait Jamel qui faisait bien ça. Nous, on s'est dit, il faut proposer autre chose. Et la langue française, c'est bien.
Puisque vous avez dit que c'était vrai, cette histoire de mettre des livres sous l'oreiller de votre sœur, pourquoi est-ce que vous faisiez...
Les gens dire sous l'oreiller, je jetais à la gueule, je
disais
ça.
Ah, ok. Ah non, c'était fais... sous l'oreiller, elle a vraiment dit sous l'oreiller.
Non, je l'ai forcé à lire et je lui demandais des fiches de lecture.
Oui, ça l'a dit aussi.
Ah bah, vous voyez. Je demandais des fiches de lecture pour
qu'elle... Mais pourquoi ?
Parce que je voulais être sûr qu'elle l'ait lu et qu'elle ait compris ce qu'il fallait comprendre.
Mais pourquoi ça vous semblait si important ?
Parce que c'est important. On a beaucoup souffert de ça, du regard des autres. C'est-à-dire, tu rentres avec une casquette.
C'est qui on ?
Les gens socialement qui n'ont pas accès à la culture des autres. Des gens qui ne pensent pas aller au musée ou aller à une exposition ou d'aller se faire signer un livre dans une librairie. Des gens socialement pour qui la culture est plus difficile d'accès. Cette culture-là est plus difficile d'accès, tout à fait.
Donc, en réponse à ça, bien s'exprimer, c'est une arme, quoi.
Complètement. Je voulais pas être jugé. Je sais qu'on juge en 5 secondes quelqu'un.
Bien sûr.
Et la façon de parler... C'est ta carte de visite, ta façon de t'habiller, ta façon de te tenir.
Mais comment vous l'avez compris ? Que c'est une bonne arme ?
Ma maman nous a toujours forcé à bien travailler à l'école, elle nous a forcé à bien parler. Et puis, toujours cette histoire de dignité par rapport aux autres. Parce qu'on n'est pas bien habillé, on n'a pas les codes. Et quand on est dans un milieu qui n'est pas le sien, au moins de bien s'exprimer, ça sauve les apparences.
Et la lecture, aujourd'hui, ça occupe quoi dans votre vie, Ramzi Bedia ? Puisque vous répondez d'une main au Super U, ça veut dire qu'elle est remplie, cette vie ?
Alors, elle est remplie de cornichons, la main gauche. Et la main droite...
Du téléphone pour répondre à France Culture.
Pour répondre à France Culture. Je prenais vraiment des cornichons.
Mais et, grand bien vous fasse,
Jean. Et je cherchais un pot avec le petit...
Bah oui, parce que c'est ça le plaisir.
Et il n'y avait pas Ils ont arrêté ou quoi?
Je sais pas.
Je ne trouvais plus.
C'est tellement agréable de soulever le petit panier vert.
Hors de question, j'allais chercher mon cornichon.
Avec mes gros doigts.
C'est impossible.
Et donc la lecture?
La lecture aujourd'hui.
Alors,
je vais vous dire une phrase d'idiot. Je ne lis pas, j'adore dire ça, comme ça, j'aime bien donner les bâtons pour se faire battre. Je ne lis pas de livre au-dessus de 300 pages.
Okay.
Déjà ça, aujourd'hui.
Critère de sélection.
Trois enfants, le travail.
Le temps est compté.
Le temps est compté, des scénars à lire. Je ne sais pas comment, je ne peux pas lire un scénar de 200 pages. Une fois que je l'ai fini, je fais « Ah, maintenant,
place à mon livre de 700 pages. »
J'y arrive plus. Maintenant, j'ai des lunettes. Je ne peux pas prendre un livre n'importe quand.
Néanmoins, vous y pensez. Ça fait partie de votre vie.
Alors, maintenant, j'achète beaucoup de livres par réflexe. Que je me dis, je les lirai là. Et j'ai du mal à m'y mettre parce que j'ai de la chance de recevoir pas mal de scénars. Donc, je lis beaucoup de scénars. Le dernier livre que j'ai...
Vous aimez bien cette lecture de scénario?
Le dernier film que j'ai fait, c'est Les Tourmentés de Lucas Bellevaux. Et c'était un roman, à la base.
De Lucas Bellevaux.
Et quand j'ai lu le scénario, bon, c'est bien, comme un scénario, c'était formidable. Mais le fait d'avoir lu le livre, c'est totalement différent. Le livre est plein de monologues qu'il n'y a pas dans le film. Et ces monologues expliquent la profondeur du personnage, ce qu'il a dedans, dans la tête et tout ça. Ça m'a énormément servi. Mais voilà le dernier livre que j'ai lu. Mais ça a un rapport avec mon travail. Ah, et j'ai lu aussi un autre livre. Care, un mec pour arrêter de fumer, un livre formidable.
Ça a fonctionné.
Une fois qu'on le lit, une fois qu'il est fini, on arrête de fumer. Ça vous dit quelque chose?
Oui, mais bon, j'ai mal. Enfin.
Je l'ai lu.
Et?
J'ai des clopes dans ma poche, plein encore.
Quelle arnaque.
Tout le monde. Ça marche, ce livre-là. Et ça n'a pas marché.
Quelle arnaque. C'est peut-être bon signe que ça n'ait pas marché sur vous.
Pourquoi?
Je sais pas. Je me dis ça comme ça.
Je suis stylé quand je fume.
Non, mais ça, faut pas dire ça. Allez, on va parler de vos 5 choix.
Marie Richeux.
Bien joué, ça.
On arrive dans le deuxième temps de cette émission.
Déjà
Ramzibédia. Oui.
Ça passe à une vitesse.
C'est fou, c'est bon signe souvent. Attention à vos lunettes.
Si je ne porte pas de lunettes, je ne vois pas ce que vous racontez.
Ah, d'accord. Il s'agit de lire des extraits de textes que vous avez choisis. Donc, vous nous avez dit tout à l'heure, j'ai pensé à des textes qui ont marqué mon parcours.
Clairement.
Voilà.
Il n'y a aucun mensonge sur cette table.
Très bien. On commence avec le procès de Kafka.
Alors, j'ai quelque chose à vous dire là-dessus.
Ouais.
Parce que quand je parle de Kafka, je ne peux pas... Ça fait, je vous jure que c'est vrai, je fais un cauchemar depuis 40 ans.
Pas toutes les nuits. Régulièrement.
Deux fois par semaine.
Vous avez un endroit pour l'évoquer ?
Un endroit pour l'évoquer. Non, non, mais je fais un rêve qui est tout le temps le même et qui change d'endroit, qui est exactement la réplique de Kafka, du procès de Kafka.
Le procès ou la métamorphose ?
Le procès. Procès.
Vous êtes arrêté pour quelque chose que vous n'avez pas fait ?
Je suis arrêté pour quelque chose que je n'ai pas fait, ou alors, et le procès est le château. Oui, le château qui est aussi. C'est plus le château même. On me dit qu'il faut que j'aille quelque part, et à chaque fois que je vais, on me dit, mais non, c'est pas là, c'est là-bas. Mais non, c'est pas là, c'est là-bas. Ça fait 40 ans que je fais ce cauchemar, et je sais que c'est Kafka qui me l'a mis dans la tête.
Ah, vous pensez que c'est Kafka qui vous l'a mis dans la tête?
J'en suis persuadé. Quand j'ai lu Kafka, ça m'a vraiment pris au trip, ça m'a mis une émotion, un sentiment à l'intérieur de moi. Je me suis pas rendu compte à quel point ça allait me rester toute ma vie.
Vous avez commencé par le procès?
Oui. Non, la métamorphose. Et ensuite, parce qu'il était plus petit, et ensuite le procès. Et ça a rentré un truc en moi qui n'est plus jamais parti.
Mais qu'a à voir avec
je
l'injustice.
Je ne sais pas. Deux fois par semaine, je fais ce cauchemar. Enfin, c'est devenu un rêve tellement maintenant, quand je suis dedans, je le reconnais.
Oui, je vois la scène.
Et je me dis oui, bah c'est reparti
pour. Je vais aller encore dans un lieu.
Voilà,
je ne
retrouverai pas ma sortie, je ne retrouverai pas mon chemin. Je fais ce cauchemar encore très très souvent, et je sais que c'est Franz Kafka. L'état d'esprit dans lequel je suis pendant mon rêve, je le fais très régulièrement, donc je le sais, donc est exactement le même état d'esprit que quand j'ai lu le procès et le château.
Est-ce que vous voulez bien, Ramzi Bedia, lire le début de ce livre, 1925, ici c'est la traduction vers le français de Jean-Pierre Lefebvre.
On parle du procès ?
Ouais.
C'est ça. C'est quelle page, vous savez ?
C'est le tout début.
Ah oui, c'est quand ils viennent le chercher tout de suite. Je me souviens de la dernière phrase de ce livre qui est « Comme un chien ». Dites-moi si j'ai raison ou pas.
Je suis sûre que oui.
Ils lui mettent une balle dans la tête devant son immeuble, dans un terrain vague. Ça ressemblait tellement à là où j'habitais, dans ma tête. Et le livre se finit, ils lui mettent une balle. Et il dit « Voilà, je meurs là comme un chien ». Je me souviens de ça, j'espère que je ne me trompe pas. C'est pas à la fin du livre, un livre ?
Mais là, c'est la Pléiade, donc il y a tout.
Ah oui. Je peux me permettre de regarder au-dessus de votre épaule ? Parce que ça m'intéresse vraiment.
Le procès, on est dedans. Le procès. Ok. Le marchand. Procès, la fin. Comme un chien.
Oh ! C'est pas vrai !
Mais les mains de l'un des messieurs se posèrent sur la gorge de K, tandis que l'autre lui plantait le couteau dans le cœur et l'y faisait tourner deux fois, ses couteaux et pas balles. Les yeux défaillants, K vit encore, tout près de son visage, les deux messieurs, joue contre joue, en train d'observer la décision, comme un chien, dit-il, comme si c'était la honte qui allait le survivre.
Et alors vraiment. Wow. J'avais pas vérifié depuis très longtemps, mais je savais que c'était ça le dernier mot. Quelqu'un avait bien dû calomnier Joseph K, car un matin, sans qu'il ait rien fait de mal, il fut arrêté. Ce jour-là, la cuisinière de Madame Grubach, sa logeuse, qui tous les jours vers 8h du matin lui montait le petit déjeuner, ne vint pas. Ce n'était encore jamais arrivé. K attendit encore un moment, aperçu de son oreiller la vieille femme qui habitait en face de chez lui et qui l'observait avec une curiosité tout à fait inhabituelle chez elle. Puis, tout à la fois intrigué et affamé, il sonna. Aussitôt, un homme qu'il n'avait encore jamais vu dans cet appartement entra. Il était mince et malgré tout solidement bâti. Il portait un habit noir bien ajusté, muni comme les costumes de voyage d'un ensemble de rabats, poches, boucles, boutons, ainsi que d'une ceinture, un vêtement qui par là même, sans que l'on puisse bien voir à quoi tout cela pouvait servir, semblait particulièrement pratique. « Qu'êtes-vous ? » demanda K, en se relevant à moitié de son lit. Mais l'homme passa outre la question, comme si l'on devait trouver normal qu'il fasse ainsi irruption, et dit simplement de son côté « Vous avez sonné ?»« Anna doit m'apporter le déjeuner, » dit K. Essayant d'abord en silence par un effort d'attention et de réflexion d'établir qui pouvait bien être cet homme, celui-ci cependant ne s'exposa pas longtemps à son regard. Il se tourna vers la porte, qu'il ouvrit un peu pour dire à quelqu'un qui manifestement se trouvait juste derrière « Il veut qu'Anna lui apporte le déjeuner !» Un petit rire suivit ces mots dans la pièce d'à côté. On ne pouvait pas être sûr à l'oreille que plusieurs personnes ne prenaient pas part à ce rire. Bien que l'inconnu ne puisse rien en conclure, qu'il n'eût déjà su, il dit alors malgré tout à K sur le ton d'un communiqué, c'est impossible.
Vous avez dit, Ramzi Bedia, quand je fais le cauchemar récurrent, je me souviens de l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai découvert les textes de Franz Kafka. C'était quoi cet état d'esprit ?
L'injustice et l'incompréhension. Je crois que ça devait coller à mon état d'esprit quand j'avais 20 ans. L'injustice...
Qu'est-ce que vous trouviez injuste et qu'est-ce que vous ne compreniez pas ?
Qu'on juge un type... Et qu'on ne lui dise même pas c'est pourquoi. Il est coupable, donc... Et ce qui me saoule encore plus, c'est le sourire des gens en face. Et c'est ça qui m'est rentré dedans. C'est l'injustice et l'incompréhension. Parce que quand on est face à une injustice qu'on comprend, on peut se révolter, on peut gueuler, combattre, se réveiller. Mais quand on ne comprend pas l'injustice... ce qui était mon cas, et ben ça crée un truc à l'intérieur de son... Je vise même pas le cœur, c'est vraiment quasiment viscéral. Ça crée quelque chose que j'ai gardé toute ma vie.
Mais c'était l'incompréhension dans cette faute de rien, ou cette faute jamais révélée du personnage de K, ou c'était l'incompréhension d'une injustice que vous-même vous observiez dans le réel, dans votre vie de l'époque.
Je faisais le parallèle forcément. Je crois que c'était les deux. Dans le procès, c'est pas juste le procès de K, c'est le procès de...
Tous ceux qui sont accusés injustement.
De tous ceux qui sont accusés injustement, mais pas accusés comme dans un cas classique, je dirais, d'un accusé, on l'accuse d'un meurtre alors qu'il a rien fait 15 ans de prison, le pauvre. Je pense, c'est une injustice d'existence. Je ne comprends pas pourquoi on nous traite pas comme les autres.
Et donc c'était un constat que vous n'étiez pas traité comme les autres.
Je l'ai pas fait à l'époque. Je le fais peut-être un peu en discutant avec vous, mais je sais que ça me... même quand j'en parle encore, Kafka m'a fait autant de mal que de bien, j'ai l'impression.
Il paraît que c'est souvent le cas.
Parfois, je regrette de l'avoir lu.
Parce que c'est comme quand on regrette d'être trop lucide ou trop conscient.
C'est ça la littérature. Ouais. C'est ça, c'est des fenêtres sur l'âme. Oh, j'ai l'impression d'être Bernard-Henri Lévy. Excusez-moi, avant de vous voyez ça, quand j'ai fini Kafka, il y a eu un son bizarre.
Oui, c'était de la musique, un tapis de lecture, sous votre voix.
Pendant que je lisais, il y avait ce tapis de lecture.
Ouais.
Oh, d'accord. Ok.
Vous voulez...
J'aime beaucoup.
Super.
J'aime beaucoup.
Formidable.
Merci.
On écoute la voix de Bukowski.
There's a dope dealer. It's a place I never got alone, like I told you. Oh, I've been in this liquor store many a time. Many a time. Great place. There's one of my men. Bank of America. All right. Shit. It's nice.
Okay, this is the end of your territory.
This is the end. They won't let me beyond. They didn't let me beyond.
C'était un samedi soir, en décembre. J'étais dans ma chambre et je buvais beaucoup plus que d'habitude en allumant une cigarette sur cigarette et en pensant aux filles, à la ville, au boulot et aux années que j'avais devant moi. Et à scruter l'avenir. Je découvrais que je n'aimais guère ce que j'en apercevais. Sans être ni misanthrope ni misogyne, j'aimais être seul. Il était bon de rester assis seul dans un petit coin en buvant et en fumant. C'était depuis toujours que je me tenais bonne compagnie. Et puis j'entendis la radio dans la pièce d'à côté. Le mec l'avait mise bien trop fort. La chanson d'amour qui en montait avait de quoi faire vomir. « Hé mec !» hurlai-je. « Ça te ferait rien de baisser un peu ?» Pas de réaction. Je m'approchais du mur et je cognais dessus. « Alors ? Tu baisses ça, oui ou merde ?» Le volume resta au même niveau. Je sortis et je me plantai devant sa porte. J'étais en caleçon. Je levai la jambe et collai mon pied contre la porte. Elle s'ouvrit d'un coup. Il y avait deux vieux sur le lit de camp. Un gros et une grosse. Ils étaient en train de baiser à la lumière d'une petite bougie. C'était le mec qui était au-dessus. Il s'arrêta, tourna la tête et me regarda. Elle était sous lui, elle me regarda, elle aussi. Rideau et petit tapis, l'endroit était très joliment arrangé. Oh, pardon. Je refermais la porte et je retournais chez moi. J'étais ignoble. Comme si les mauvais rêves, les vieux n'avaient pas le droit de les traverser en rêvant. Un peu de baise, un peu de pinard, peut-être même un peu d'amour, c'est tout ce qu'ils avaient. Je me rassis et me versai un verre de vin, j'avais laissé la porte ouverte. La lumière du clair de lune entrait dans la pièce et avec elle, jukebox, automobile, jurons, aboiement de chien, radio, tous les bruits de la ville. La merde, on y était tous ensemble, là, au beau milieu de l'énorme cuvette des chiottes de la vie. Une fois la chasse tirée, on en serait tous évacués, ça me tue.
Ramzi Bedia, vous venez de lire la traduction française de Souvenir d'un pas grand-chose. Le texte paraît en anglais en 82 et dans la traduction de Robert Pépin vers le français en 1984. On est plutôt à la fin du roman. C'est un roman où Bukowski met en scène un double littéraire mais qui lui ressemble beaucoup.
Lui, ouais.
Quand vous avez terminé votre lecture, je crois que le micro était coupé, mais vous avez dit « ça me tue ce mec ».
Je voulais m'arrêter. En fait, à chaque fois que je lis ce mec... combien de fois j'arrive même pas à arriver à la fin du chapitre ou à la fin du paragraphe parce qu'il t'en met une au milieu.
Ça veut dire quoi, il t'en met une?
Chez Bukowski, ce qui me rend fou chez lui, c'est que il parle de baisse, d'alcool, de comportements qu'il a qui sont vraiment pas classe et il en est conscient. C'est dit avec des mots simples et au milieu de ça, il y a une phrase qui relève absolument tout.
Et là, c'était les vieux traversaient les rêves en rêvant.
Celle-là, elle m'a tué les anges. Si j'étais à la maison, j'aurais posé le bouquin, j'aurais fait non. Voilà, voilà. Et il y en a une deuxième à la fin encore. C'est Bukowski, c'est ça. Je pose le livre à chaque fois. Je refais le parallèle avec Booba. Et je le prends comme ça, un truc urbain qu'on voyait dans la gueule. Et avec une poésie qui est au-dessus de tous les autres. Mais j'ai l'impression qu'en choisissant Bukowski, je suis pas très original. Je vois tout le monde qui cite Bukowski et je déteste les autres fans de Bukowski.
Vous ne voulez être que tout seul.
Ça m'énerve que Bukowski, tout le monde le cite et tout. Et à chaque fois qu'ils entendent parler, eh ben, c'est pas ça.
Mais peut-être parce que chacun et chacune des lectrices de Bukowski a sa relation particulière avec Bukowski.
Moi, j'ai quatre photos de Bukowski au-dessus de mon lit.
De votre lit ?
Oui, au-dessus de mon lit. J'ai toujours eu, depuis l'adolescence. Que quand je le vois, je me dis, écoute, la vie, c'est comme traverser une rivière de merde en essayant de garder la tête hors de l'eau.
Et ça vous rassure ?
Ouais, ça me rassure infiniment. Une sorte de figure paternelle au-dessus de moi, que j'adore. C'est peut-être pour ça qu'il est au-dessus de ma tête. Et j'adore sa vision de la vie, en fait. Ça m'aide à tenir et à aller jusqu'au bout.
On va écouter une autre figure, elle aussi.
Mais je déteste les autres fans de Bukowski.
Ok, c'est dit.
Voilà,
je voulais dire. C'est clair pour tout le monde, j'espère.
Que d'autres fans viennent pas me dire, moi aussi j'adore, parce que
vraiment, ça se passera pas très bien.
Non.
Ce sera pas amical.
J'aime pas. J'aime pas ça.
Et ceux qui aiment bien Émile Turan et qui se retrouvent dans Émile Turan, pareil?
Ça, oui.
Autorisé.
Là, on est dans autre chose, là. Là, on est dans... On parle de Suran, maintenant ?
On écoute sa voix.
Je suis né dans un village, tout à fait dans la Carpac, en montagne, à 12 kilomètres de Sibiu-Hermannstadt. Et ce village, je l'aimais énormément. Et quand je l'ai quitté, ça a été pour moi, je dois dire, à 10 ans, j'ai quitté ça pour aller au lycée de Sibiu. Je n'oublierai jamais le jour, ou l'heure plutôt, où mon père m'a emmené à Sibiu. On avait loué une voiture à cheval, n'est-ce pas. Je pleurais tout le temps, avec une sorte de pressentiment que le paradis était fini. Pour moi, les journées s'est réduisées à ça. Après le petit déjeuner, disparaître jusqu'à midi, je rentrais à la maison, et ensuite, une heure après, je disparaissais. C'est dans la montagne, partout, et ça a duré jusqu'à l'âge de 10 ans. Alors, il y a eu l'avantage de la guerre de 14. Mes parents avaient été déportés par les Hongrois, comme vous. Et qui est resté, mon frère et ma soeur, n'est-ce pas, Antoine, c'est un grand mec qui s'occupait de nous, mais nous étions totalement libres. Et c'était l'époque idéale. Alors j'aimais beaucoup les paysans. Et plus encore que les paysans, hormis les tchobans, c'est des bergers. Vraiment, j'avais une sorte de culte pour eux. Et quand j'ai dû quitter ce monde, ce monde-là, n'est-ce pas, pour moi, j'ai senti, j'ai eu un pressentiment que quelque chose s'est brisé pour toujours.
C'est la voix de l'auteur Émile Suran, d'origine roumaine, qui parle de l'arrachement de quitter les Carpates de son enfance. Ça fait partie des auteurs que vous avez choisis, Ramzi Bedia. Pourquoi est-ce que vous aimez Émile Suran ? Ou qu'est-ce que vous aimez dans Émile Suran ?
Suran, c'est récent. C'est pas un truc que j'ai... Ça,
c'est pas la fameuse bibliothèque de l'hôpital psychiatrique.
Non, là, c'est... La bibliothèque m'avait mis sur les rails et m'a mis donc sur les rails de Suran. Après ça, j'atterris. J'ai découvert Suran en emmenant à l'école ma fille, il y a au moins 17, donc ça fait 15 ans. Et je me suis fait ami avec un parent d'élève que je trouvais très cool. Je parlais à aucun autre parent d'élève, mais lui, ça marchait. Et il me parlait de Suran tout le temps. C'était notre seul sujet de discussion en attendant nos enfants. Et j'aimais bien ce mec, et il m'a conseillé. Et un jour, en venant à l'école, il m'a offert un livre de Suran, Je ne connais pas plus. Et j'ai bouffé, je l'ai mangé. J'adore les gens qui ont des visions de la vie, que ce soit comme la sienne, très 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 noire, et ça sert plus à rien d'y aller même, ou celle de Bukowski. J'aime les gens qui ont une vision de la vie désabusée, mais on continue. De l'inconvénient d'être né, c'est ça qu'il m'avait offert comme livre.
Je dis, okay. Comme prof d'amitié.
Mais je sais pas, ce parent d'élève était un mec un peu baba cool, très gentil, avec un sourire très doux. Il avait l'air très heureux, comme moi. Et quelque part, on s'est partagé ce livre très noir, très déprimant. Mais ça fait du bien. Quand le talent est à ce niveau-là, c'est pas déprimant.
C'est un livre de 1973, ce sont des aphorismes, des phrases très courtes. Il commence à écrire en français, qui est donc pas du tout sa langue d'origine, à partir du milieu fin des années 40. Est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de ce livre-là ?
Avec grand plaisir.
Vous y prenez goût, en fait, à lire des textes à la radio ?
Et j'aime bien ça. Ouais. J'aime bien ça. J'aime bien lire, hein. C'est cool. Et puis, on lit pas de la merde.
Bah, c'est vous qui avez choisi.
Pardon. Alors, nos proches, entre tous, mettent le plus volontiers nos mérites en doute. C'est vrai. C'est vrai. La règle est universelle. Le Bouddha lui-même n'y échappa. C'est un de ses cousins qui s'acharna le plus contre lui. Et ensuite seulement Mara le diable. Voilà.
Il est drôle en plus d'être
Mais
sombre.
C'est formidable, Suran. C'est pour ça que c'est pas triste. Alors, sa vision, elle est affreuse de la vie.
Mais
elle
c'est
est...
assez jubilatoire.
Mais c'est jubilatoire.
Moi, je connais pas du tout. On écoute d'autres phrases.
Parce que quelqu'un d'aussi qui voit la vie aussi noire, normalement, il t'a envie de te suicider en le lisant. Il t'encourage à ça. Alors que là, lui, il dira, je le ferai pour vous, de me suicider. Allez-y.
Vivez à ma place.
Vivez à ma place, ça me touche beaucoup. Pour l'anxieux, il n'existe pas de différence entre succès et fiasco. Sa réaction à l'égard de l'un et de l'autre est la même. Les deux le dérangent également. Mais c'est vrai.
C'est votre cas ?
Oui. Quand ça va pas, t'es anxieux, tu dors pas. Tu dis, mais je vais manger comment ?
Quand ça va trop bien.
Il y a un loyer à payer. Et quand ça va trop bien, tu dis...
C'est bizarre.
C'est bizarre, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Quelque chose va me tomber dessus. Je crois encore plus anxieux quand ça va.
Un autre aphorisme ?
Oh, plutôt dans un égout que sur un piédestal.
Bon, ça se discute.
Celle-là, ouais. Quand je me tracasse un peu trop parce que je ne travaille pas, je me dis que je pourrais aussi bien être mort et que je travaillerai encore moins. existence égale tourment. L'équation me paraît évidente. Elle ne l'est pas pour tel de mes amis. Comment l'en convaincre ? Je ne peux pas lui prêter mes sensations, or elle seule aurait le pouvoir de le persuader, de lui apporter ce supplément de mal-être qu'il réclame avec insistance depuis si longtemps. Oui, c'est ça.
Vous êtes tourmenté ? Vous diriez que vous avez un rapport à la vie qui est de cet ordre-là ? Qui est tourmenté ?
J'ai l'impression qu'on l'est tous. Mmh. On a tous un côté sympa, un côté plus relou. Et je m'efforce de le garder pour moi, ce côté tourmenté. Je m'efforce pour le garder dans ma chambre. C'est pour ça que j'ai du mal à dormir.
Surtout si vous dormez avec Bukowski, ce doit être...
Mais ça, eh ben, il me rassure.
Un autre ?
Si on voit les choses en noir, c'est parce qu'on les pèse dans le noir. Parce que les pensées sont en général fruits de veille, partant de l'obscurité. Mais c'est exactement... C'est fou. C'est ce que je vous dis. C'est dans ma chambre que je garde ces pensées noires et ces insomnies et ce truc-là. Et c'est exactement ce qu'il est en
Mais
train de dire.
Mais le lire, c'est se dire, au final, si on vous écoute, Ramzipédia, le lire dans la langue de Sturan, c'est se dire, je ne suis pas seul.
Je ne suis pas seul. Et lui met des mots tellement justes, pertinents, parfois drôles, que ça m'enlève le poids de ce truc. Mmh. Alors que sinon, on se retrouve seul avec ce poids et on rajoute du poids. On dit, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible.
Donc, bien dire les choses allège le monde. Allez.
Ce qui nous différencie des animaux, la parole, quand même.
Il vous reste deux choix, Ramzi Bedia. Un texte de Fab Caro. Zaï, 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 zaï.
Je me suis permis de citer de la BD.
Bah, bien
On
sûr.
On m'a dit 5 livres, mais la BD,
c'est
un livre.
Des livres.
On est d'accord.
Bah, bien sûr,
Il y a autant d'émotions et de trucs dans une BD que dans un livre.
Absolument. Qui est un livre, par ailleurs, la BD.
Un livre, est-ce que ce sont des pages reliées ?
Ouais.
C'est ça, la définition d'un livre ?
Ouais.
C'est quoi la définition d'un livre ?
Des pages reliées ? Pages reliées, couverture.
C'est ça, un livre ?
Un livre de photos, une BD.
Dommage que je ne puisse pas vérifier la définition de livre.
Parce que je vous ai demandé de mettre votre téléphone sur avion.
Et que je l'ai fait.
Exactement.
Mais j'aimerais bien avoir la définition du Larousse de qu'est-ce qu'un livre ?
Des pages imprimées,
des pages
et,
imprimées
reliées
et reliées.
Sous une couverture.
Donc, une BD, c'est un livre.
Absolument.
Non ! Ça veut dire que le catalogue des promotions de Super U, c'est un livre.
Ah oui, donc ça suffit
que le catalogue
pas
de la Redoute, la Redoute, c'est un livre,
non,
le catalogue.
Livre.
Le mec qui vit encore
non.
en 2003, hein, le catalogue La Redoute.
Non, c'est pas un livre, le catalogue de La Redoute.
Est-ce que dès que c'est relié et que ce sont des pages...
Il y a quelqu'un qui a le droit d'avoir Internet dans la régie, alors on va écouter.
Alors, assemblage broché ou relié d'un nombre assez grand de pages à l'exclusion des périodiques.
Ok. Du coup, La Redoute
du
périodique.
Du coup, La Redoute, c'est un périodique ? Oui, périodique, ça veut dire un truc qui sort régulièrement.
Ouais, tous les ans.
Donc, la différence, c'est périodique. C'est ça le moins important.
Ah ouais, pas mal. Une fois
c'est
imprimé, relié, c'est un livre.
Ressorti souvent et différent,
c'est un périodique.
C'est un périodique.
Ah ouais. Allez.
Okay.
Heureusement que quand même, ça fait quelque temps que cette émission existe. On s'était jamais demandé exactement c'est quoi la définition d'un livre.
Moi non plus, je m'étais jamais posé cette question.
On écoute la voix de Fab Caro.
D'habitude, je me réfugie dans le non-sens ou dans l'absurde pour fuir la réalité. Je trouve que c'est assez pesant. Donc moi, c'est vrai que le non-sens et l'absurde, c'est une espèce de bulle dans laquelle je me réfugie dès le matin. Je n'aimerais pas être dessinateur de presse, les gens qui se plongent dans le journal le matin pour rendre compte de tout ça. Mais là, pour le coup, Zaï Zaï, j'avais envie de... Alors, d'une première lecture très burlesque, si possible, un petit peu drôle, mais une seconde lecture plus politique, entre guillemets, avec mon regard à moi. Je voulais parler un petit peu de tout ça, de l'état sécuritaire, des médias, et puis cette histoire de carte aussi, la carte du magasin. En première lecture, c'était une espèce de critique de la société de consommation. Mais pour moi, en deuxième lecture, c'était les papiers d'identité, avec le fuyard, qui est obligé de fuir parce qu'il n'a pas ses papiers d'identité. Et avec cette image de l'auteur qui représente l'étranger au sens large. Et alors, en le faisant, je me disais, bon, peut-être qu'on ne le verra pas, peut-être que des lecteurs ne le verront pas, mais moi j'avais envie de... Pour moi, c'était en filigrane. Dans toute cette histoire, c'était la fuite de l'étranger qui n'a pas ses papiers.
La bande dessinée que vous avez choisie, Ramzi Bedia, c'est Zaï 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 de Fab Caro.
Qui est son œuvre la plus connue.
Ouais.
Mais toute son œuvre est fabuleuse. Toute son œuvre est du même acabit. Ça, c'est... Tout le monde connaît Zaï Zaï Zaï. Mais Fab Caro, c'est exceptionnel. Et là, je viens de l'entendre. Je comprends quand il dit je n'aimerais pas être dessinateur
de presse
pour raconter l'actualité. Quand on faisait les mots avec Eric, c'était... On le faisait d'une manière absurde, mais on racontait quand même quelque chose par-delà, qu'on était un arabe et un noir, et qu'on maîtrisait peut-être mieux la langue que certains.
téléspectateurs qui vous regardaient en se bidonnant.
En se disant, ils sont vraiment bêtes ceux-là. Et là, quand j'entends Fab Caro parler, je retrouve un peu de ça, quand il dit l'étranger qui...
L'air de rien,
il dit. L'air de rien, de raconter un truc. Et effectivement, peut-être que les gens ne le verront pas, mais pour lui, c'était important. Pour nous, c'était important de bien parler. Et je remercie encore François de Zania, le réalisateur de films...
Qui a fait une adaptation.
Qui a fait l'adaptation et qui m'a proposé. Ouais. Et c'est lui qui m'a mis ce livre...
Dans les mains.
Dans les mains. Je l'en remercie encore, j'ai absolument tout mangé. C'est-à-dire, quand un Fab Caro sort, là...
Vous y allez.
Tout de suite, et ça, je le bouffe tout de suite.
C'est une sorte de BD à sketch. Est-ce que vous voulez bien essayer l'exercice de lire de la BD à la radio? C'est pas facile.
C'est pas facile, ce sont deux personnages, parce que, donc, il y a eu un fugitif qui s'est sauvé, et un journaliste va dans la rue pour faire un micro-trottoir et demander ce que pensent les gens. Donc là, il est face à un vieux et une vieille. C'est vrai que j'ai fait de la radio ou pas, comment je décris?
Hyper bien.
Merci. Ouais. Alors, donc, on a un journaliste qui pose des questions en micro-trottoir à un couple de personnes âgées. Et donc, il pose la question, en tant que voisin du fugitif, diriez-vous que c'est l'incompréhension totale? La dame répond, oui, c'est l'incompréhension totale. Diriez-vous que ici, c'est la stupeur? La dame répond, oui, ici, c'est la stupeur. Diriez-vous que vous sentez un climat d'insécurité croissant? Oui, on sent un climat d'insécurité croissant. Direz-vous que c'est une forme de ras-le-bol, j'imagine? Oui, une forme de ras-le-bol. Perdu, j'avais pas dit, direz-vous? Et elle répond, ah l'enculé.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Ramzi Bedia. Marie Richeux.
Toutes les pages sont comme ça. Il maîtrise l'absurde, c'est un surfeur de l'absurde, Fab Caro.
Et en même temps, ça nous dit beaucoup de la manière dont sont fabriquées certaines chaînes d'infos, de comment est-ce qu'on parle à la place des gens, de comment est-ce qu'on fabrique un discours médiatique.
Et puis ces personnages, toujours mal à l'aise dans la vie par rapport aux autres, qui n'ont pas les us et coutumes, qui sont toujours un peu décalés à côté. Je trouve ça très élégant de passer par l'humour et alors encore plus l'absurde, pour raconter des vraies choses. Je trouve ça très élégant. Je fais l'analogie avec... je déteste les musiques, les pianos-voix. Quand tu es dans une soirée avec des gens, et qu'il y a un piano, et qu'il y en a un qui se met au piano, qui dit « je vais vous jouer un truc »,
c'est encore autre chose.
Et qui se met à jouer des notes tristes avec des paroles sérieuses, et tu te dis « l'enculé, on est parti pour 3-4 minutes de ça, je pensais qu'on était, on va passer une bonne soirée ». Et le mec te dit des... Eh ben... C'est la même chose quand on veut te raconter des choses importantes et que c'est des prises d'otages. Enfin, on t'assoit, on dit je vais te parler sérieusement, la tête est sérieuse, le ton est sérieux, on est dans un truc sérieux. Donc,
c'est pour vous, il y a de l'élégance à ce que quelque chose déjoue ce sérieux-là.
Complètement. Il y a de l'élégance à pas prendre en otage son interlocuteur.
Est-ce que ça joue dans les films que vous choisissez aujourd'hui? Qu'il y ait toujours quelque chose de l'élégance d'un décalage, y compris si c'est pour traiter de sujets sérieux.
J'aimerais bien, mais...
Ce n'est pas toujours le cas.
Je n'ai même jamais pensé à ça. Je l'applique à Fab Caro, mais pas à moi.
Votre dernier choix, c'est un livre de Woody Allen. Vous avez dit, en répondant à l'invitation du Book Club de France Culture, Ramzi Bedia, un livre avec une couverture jaune de Woody Allen.
Il y en a plusieurs.
Exactement. Donc,
je les ai tous lus.
Mais donc, voilà, c'est juste pour dire que nous avons arbitrairement choisi.
Très bien.
Dans les couvertures jaunes de Woody Allen.
Ça m'est revenu aussi.
L'erreur est humaine, paru en
2016. Et Destin tordu.
D'accord.
Il y a Destin tordu et il y a, j'ai oublié les titres, quand je les vois, ils me sautent aux yeux, évidemment. Je sais qu'ils sont jaunes. Vous avez des livres de Woody Allen qui sont plus, didactique sur sa carrière, sur là où même lui il est un peu chiant, du plateau de théâtre, je ne sais quoi. Et ces livres jaunes qui sont juste des nouvelles. Et je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais une bombe d'humour là-dedans. On peut rire à un spectacle, vraiment avoir le ventre cassé, se retrouver par terre de rire.
Agréable.
On peut rire à un film, vous mettez un film de Will Ferrell, vous me retrouverez allongé par terre à me retenir le ventre. Et en livre, c'est lui qui m'a fait ça. c'est fou de maîtriser l'humour en écrivant juste, sans, là cette fois sans son, sans image. Moi, j'en fais beaucoup pour faire rigoler, je bouge partout. et je suis ultra impressionné de faire rire autant, mais à un niveau que moi j'estime un des plus hauts que j'ai vu dans ma vie.
Par la langue uniquement.
Par la langue uniquement et l'esprit et la simplicité des choses.
Est-ce que vous voulez bien nous en lire un extrait?
Non,
allez.
Non, d'accord. Je suis très influençable aussi.
Oui, et c'était pas très long de vous
convaincre. Vous voulez partir avec celui-là?
Eh bien non, parce qu'il est à la bibliothèque de Radio France. Sinon, je vous l'aurais offert.
Et Radio France, ils ont 4 exemplaires. Et si celui-là, il manque, ils en rachètent d'autres.
Je suis pas certaine. Et comme, vous le savez, c'est l'argent public, donc l'argent de tout le monde, je peux pas. Par contre, on peut...
Pas ce moment où c'est de l'argent public, c'est de l'argent aussi de moi.
De tout le monde, exactement, j'ai précisé.
Je peux vous prendre 2-3 pages.
Est-ce que... Nous, on a choisi un extrait, mais en même temps, je...
Alors, attention.
Oui. Comme, c'est dur, oui. Vous venez de dire que c'était hyper drôle.
Et c'est ce qu'il y a de plus hilarant, ce que j'ai vu dans un livre, avec les mémoires de Groucho Marx. Ça me revient, je l'associe à ça aussi. Vous le conseille, j'ai oublié le titre. Les mémoires de Groucho Marx.
Vous avez ri.
Oh là là, mais pas ri. C'est éclat de rire, de pleurer de rire et de poser le livre. C'est pas juste, c'est vraiment drôle. Non, non, je vous assure, je pose le livre.
Mais du coup, j'ai envie d'essayer.
Pleure de rire.
Est-ce que vous voulez bien essayer?
Mais c'est inégal.
Ah.
C'est pas juste tout est bien. Il y a des trucs inégalables.
Et vous vous en souvenez ou pas?
Bien sûr, je me souviens de certaines de ces histoires, mais il y en a tellement des livres, il y en a 3-4, tellement c'est pas tant que ça, que il faudrait... Attends, peut-être en regardant le sommaire, il y en a un qui va me dire quelque chose. Ah, c'est pas un recueil de nouvelles, celui-ci?
Si, mais c'est... À la fin, il y a la table.
Oh, le figurant ravi, le premier qui me saute aux yeux. Sans foi ni matelas, vienne qui pourra. Mais c'est vraiment super, hein. Ça, je vous le conseille à tous de lire ça pour être heureux dans la vie. Je les mélange tous. Je les mélange tous. Je vais lire celui que vous m'avez préparé. Vous faites quoi?
Je vous écoute.
20 ans. 20 ans à la brigade criminelle de la police de New York et, mon vieux, plus rien ne vous étonne. Comme la fois où un agent de change a découpé en julienne sa petite loutre qui refusait de lui passer la télécommande. Ou le cas du rabbin qui, suite à une déception amoureuse, a décidé d'en finir. Il a saupoudré sa barbe d'anthrax et a reniflé un bon coup. Lorsqu'on nous a signalé qu'un cadavre avait été retrouvé sur Riverside Drive, à l'angle de la 83e rue, sans impact de balle sur le corps, ni la moindre blessure de poignard, ni même une trace de bagarre, je me suis bien gardé de penser qu'on nageait en plein film noir. J'ai préféré en conclure qu'il s'agissait de l'une des 1000 tortures naturelles qui, selon le chantre d'Avon, sont les legs de la chair. Ne me demandez pas laquelle. Mais lorsqu'un autre Maccabée est apparu à Soho, 2 jours plus tard, également dépourvu de toute trace de violence, puis un troisième à Central Park, alors là, j'ai sorti la dexédrine et annoncé à ma moitié que pendant un certain temps, j'allais travailler tard le soir. C'est incroyable, s'est exclamé mon collègue Mike Sweeney, en délimitant la scène du crime à l'aide de traditionnels banjos. Mike était un vrai nounours, il pourrait vraiment passer pour un ours. Il a d'ailleurs été contacté par des zoos pour faire des remplacements lorsque l'ours titulaire est en congé maladie. La presse à scandale affirme que c'est un tueur en série, a-t-il ajouté. Évidemment, les tueurs en série se plaignent d'être toujours les premiers incriminés dès que 3 ou 4 victimes sont tuées de la même façon. Ils souhaiteraient que ce nombre soit porté à 6. Ben, c'est bien cette vanne. Oui, forcément, faut le lire, il faut aller au bout de la nouvelle déjà au bout de la nouvelle.
Non, mais on a quand même ri déjà un petit peu.
Achetez le livre, je vous le rembourse, vous envoyez à France Culture, je vous le rembourse si vous avez pas ri. Pas éclater de rire et pas mourir de rire.
Merci beaucoup Ramzi Bedia d'avoir ouvert pour nous Merci beaucoup Ramzi Bedia d'avoir ouvert pour nous votre... Oh. Bon, Marinette. Merci beaucoup, Marie.
Waouh ! Allez, on s'en va.
Allez.
C'est insupportable. Elle ne s'est même pas dit au revoir. Cette fiche me dit au revoir. Dis-le, je me casse comme ça. Salut.
C'est l'émotion. Il a disparu. Moi, j'ai le temps.
Pour moi, moi aussi. J'essaye de perdre un peu de temps parce que c'est à 20h l'avant-première.
Merci beaucoup, Ramzi Bedia, d'avoir ouvert pour nous votre bibliothèque.
C'est pas la mienne, c'est celle de l'hôpital.
Et un peu la vôtre aussi, quand même.
C'est aussi la mienne. C'est devenu la mienne.
Au son aujourd'hui, c'était Grégory Wallon, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à l'équipe du Book Club, Mathilde Wagman, Jeanne Aléo, Cyril Marchand, Marianne Chasseur et Garance Roubieux. Vous pouvez retrouver le Book Club sur le compte Instagram animé par Alexandre Alaïbegovitch et toutes nos bibliothèques sur franceculture.fr.